Alors clairement, aujourd'hui, ce que veut faire le président Macron, d'après moi, compte tenu du fait qu'il y a les cinq pays, l'Union africaine et l'Union européenne, et qu'il n'y a pas invité le Nigeria et l'Algérie, c'est dans un premier temps de faire un point de situation effectivement sur le terrain, de voir les besoins et d'essayer de partager le fardeau avec notamment l'Union européenne que la France porte pratiquement à bout de bras avec 4000 soldats. Donc ce premier objectif est effectivement beaucoup plus militaire, voire logistique et financier, qu'un objectif de régler ce problème, et on en est bien entendu très loin.
Alors, d'un point de vue militaire, où en est-on dans la constitution de ce fameux G5 Sahel ?
Bien, le G5 fonctionne, mais vous savez bien que dans ces cinq pays, il y en a un seul qui est vraiment un État guerrier qui a une armée, c'est le Tchad. Le Niger est un pays en déshérence. Le Mali, l'armée est en train d'être reconstituée, mais face à des gens qui sont des gens du Nord, l'armée n'a jamais fait des étincelles. La Mauritanie est un tout petit pays de 4 millions d'habitants et le Burkina est en arrière de la main. Et donc cette force, si vous voulez, interafricaine, est beaucoup plus une force qui permet de défendre des points sensibles, d'occuper des villes, mais d'assurer une sécurité dans les villes, mais elle a, en dehors des Tchadiens, une très petite capacité opérationnelle pour courir après les djihadistes.
Ça signifie que cette force ne peut pas fonctionner sans l'appui militaire de la France ?
C'est évident que cette force ne peut pas fonctionner sans l'appui, je ne dirais pas uniquement de la France, mais de militaires occidentaux. Ces cinq pays représentent 3 800 000 km², c'est-à-dire 7 fois la superficie de la France. Donc on est face à des élongations considérables et donc il faut des moyens aéromobiles et de transport, et notamment aéromobiles que ces pays ne possèdent pas. Donc si on ne veut pas effectivement mettre trop de monde au sol, il faut tenir les principales villes, effectivement, c'est ce qui est fait essentiellement par cette force, et avoir une force d'intervention rapide, qui dispose de moyens aéromobiles, qui dispose surtout d'excellents renseignements, que ce soit satellites, électroniques, etc., et qui permet d'aller porter des coups à ces djihadistes.
Jean-Bernard Pinatel, les djihadistes multiplient les attaques dans la zone sahélienne. 4 soldats américains sont morts au Niger début octobre. De quels djihadistes parle-t-on ? Al-Qaïda, l'État islamique ?
On parle de deux origines. Vous avez effectivement tous ceux qui tiennent, les djihadistes qui tiennent la bande sahélienne et qui se ravitaillent, si on peut dire, grosso modo, à partir de la Libye et qui sont ce que l'on connaît, ACMI, un certain nombre de bandes. Et vous avez Boko Haram, effectivement, qui est dans la zone du lac Tchad, en tout cas pour la région qui nous intéresse, qui couvre le Niger, le Cameroun, le Tchad. Et je vous rappelle quand même que cette région du lac Tchad, il y a environ 50 millions d'habitants qui y habitent. C'est la région, une des régions les plus pauvres du monde, parce que ce lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Et donc, ces gens vivent difficilement. Et donc, quand vous avez des gens qui vous proposent une petite solde pour vous engager avec eux, eh bien, Boko Haram recrute beaucoup dans cette région du lac Tchad.
Et l'État islamique Daesh est présent ?
Alors oui, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique, mais c'est beaucoup plus, si on peut dire, la partie religieuse, en tout cas l'allégeance religieuse qui est importante, parce que quand vous avez affaire à des Touaregs ou des Toubous, ils sont islamisés, mais ils n'ont rien à voir avec les djihadistes que l'on connaît en Syrie ou en Irak, parce que la culture est différente.
Combien sont ces djihadistes ? Est-ce qu'il existe une estimation ?
On peut penser, là encore, que dispersés sur l'ensemble de la zone, on doit avoir de l'ordre de 2000 à 3000 hommes. Mais ce qu'il y a d'essentiel, c'est que Barkhane a obtenu quand même quelque chose, c'est qu'ils ne peuvent plus se dépasser en grande bande et à tenir des zones. Rappelez-vous, au moment où on est intervenu, ils tenaient quand même tout le nord Mali. Donc maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement des actions commando, se réfugier dans des zones refuges et mener des petites actions commando ou terroristes. C'est-à-dire qu'on a quand même abaissé le niveau de la menace d'une façon très importante. Mais on n'arrive pas à stabiliser cette situation avec à la fois les effectifs actuels et la participation telle qu'elle est des pays du G5.
Ça veut dire que ces groupes n'arrivent plus aujourd'hui à contrôler de larges pans du territoire où ils opèrent ?
Non, ils arrivent à être par petites bandes dans des zones refuges, mais dès qu'on a ces renseignements, on va casser cela. Donc, cela dit, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on a 4000 hommes là-bas. Si on les retire, ils seront capables de reconstituer ce qu'ils étaient avant. Donc le problème pour la France aujourd'hui, c'est de partager le fardeau. On ne peut pas se retirer, sinon au moins 4 de ces pays tombent très rapidement.
Et réduire la présence française, c'est envisageable aujourd'hui ?
Eh bien oui, c'est tout, d'après moi, ce que souhaite à terme le président Macron, c'est de faire participer d'une façon beaucoup plus importante, notamment l'Union européenne et en particulier l'Allemagne. Et ça, c'est je pense, ce qu'il cherche le plus à faire, à estimer vraiment les besoins pour maintenir cette stabilité. Parce qu'il faut quand même se dire que dans ces pays, il y a 77 millions de personnes et que si les djihadistes arrivent à y mettre un haut niveau d'insécurité, on va en retrouver 10 millions à nos frontières. Donc il est tout à fait essentiel qu'on maintienne la stabilité là-bas pour maintenir les gens dans ces pays.
Mais en conclusion, Jean-Bernard Pinatel, l'élimination totale de ces groupes djihadistes prendra beaucoup de temps.
Absolument, parce qu'ils opèrent sur 4 millions de kilomètres carrés. On ne contrôle pas avec 4 000 hommes 4 millions de kilomètres carrés.